pépites pour explorer, le temps d'une pause, les incontournables et les trésors du catalogue ENS Éditions. Le 26 septembre dernier se tenait la séance inaugurale du cycle de rencontres pépites, des rencontres de 45 minutes en public et en toute convivialité dans la librairie ENS Éditions. À chaque séance, un temps de discussion avec un auteur ou une autrice dont l'ouvrage est ressorti du catalogue des éditions de l'ENS, échanges, rencontres, réflexions et, pour clôturer la séance, une pause gourmande et un tirage au sort pour tenter de remporter un ouvrage du catalogue d'ENS Éditions. Et pour cette séance inaugurale, nous recevions Jean-Christophe Angot, maître de conférence en philosophie à l'ENS de Lyon, spécialiste de l'œuvre de Mikhaïl Bakounine et des études autour de l'anarchisme et des relations de pouvoir dans les partis politiques.
Alors, Bakounine, on le connaît évidemment bien souvent comme un... Enfin, c'est un nom qu'on associe à l'histoire de l'anarchisme, comme un des premiers, penseurs de l'anarchisme, même si c'est quelqu'un qui, en fait, ne s'est dit anarchiste que très tard. Hein, la première déclaration ouverte d'anarchisme de Bakounine, c'est 1867. Il a donc déjà 53 ans. Et puis on dit toujours l'anarchisme, c'est un truc on a 16 ans et puis après on arrête quoi. Et ben non, lui en fait il a commencé très tard quoi. Et donc c'est les 10 dernières années de sa vie quoi, ou ouais, 12 dernières années de sa vie, on peut vraiment le qualifier d'anarchiste. Donc moi je me suis intéressé à celui d'avant, alors celui d'ailleurs qu'a fréquenté Tourguenieff, et effectivement hein, Bakounine est l'une des sources du personnage de Roudine, hein, c'est portrait des hommes de trop. Et c'est quelqu'un donc qui et je me suis intéressé à lui à une période en plus très particulière, enfin en tout cas pour ce livre, hein, parce que j'ai fait ma thèse sur Bakounine, mais en tout cas pour ce livre c'était vraiment sur une période très très particulière et finalement très courte de sa vie, qui est la période qu'il passe en Allemagne entre 1800, fin de l'année 1840 et fin de l'année 1842. Donc c'est vraiment deux ans, hein, deux ans en Allemagne, où il arrive depuis la Russie. La raison officielle, c'est parce qu'il a envie de poursuivre ses études de philosophie. La raison officieuse, c'est aussi qu'il a envie de prendre l'air, quoi, un peu, voilà, par rapport à la Russie, où il tourne un peu en rond. Et puis en Allemagne, alors il va faire toute une série de rencontres qui vont être décisives pour la suite de son parcours, et en particulier dans tous les secteurs qu'on appelle à l'époque, alors d'abord la gauche hegélienne, puis ensuite le mouvement jeune hegélien. Alors pour répondre à la question du pourquoi, c'est des raisons aussi un peu de circonstances. Moi, c'est un auteur que j'aimais beaucoup depuis toujours, depuis. En tout cas très longtemps, et moi je me suis orienté vers lui parce que j'ai découvert, alors l'année où je préparais l'agrégation de philo d'ailleurs, que Bakounine avait déjà, moi je connaissais le Bakounine anarchiste, celui des années 1860-70, au détour d'une lecture d'ailleurs je crois sur Marx, j'ai découvert que Bakounine était déjà actif dans les années 1800, au début des années 1840. Et plutôt que de continuer à préparer mon programme d'agrégation, je suis allé dans des librairies un peu obscures et j'ai fini par tomber sur les textes de jeunesse de Bakounine, et que j'ai trouvé pas très bien traduits. Je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire. Donc j'ai mis ça entre parenthèses, dit, quand j'aurai l'agrégé, je vais revenir là-dessus. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis revenu là-dessus, parce que je me dis qu'il y avait un vrai travail, enfin surtout j'étais vraiment saisi par la proximité avec les thématiques hegéliennes de l'époque, que vraiment j'ignorais totalement en fait cet aspect-là de son activité.
Et justement, qui sont ces jeunes hegéliens que Bakounine va rejoindre et qui donnent donc le titre, hein, de votre livre, Bakounine, jeune hegélien? Il y a quand même toute une description, enfin en tout cas au début, de ce contexte aussi de création foisonnant, cette Allemagne.
Alors, c'est un mouvement, alors bon, si... Il faudrait un peu raffiner les choses, parce que de fait on a tendance parfois à confondre par exemple les appellations de gauche hegélienne et de jeune hegélianisme. De fait, ça correspond disons à deux moments un peu distincts de l'évolution de l'école hegélienne. Il y a une première scission au milieu des années 1830 entre une droite et une gauche, mais qui sont encore des gens qui restent dans l'interprétation de Hegel, qui cherche aussi à éditer Hegel. Et puis à partir du début des années 1840, en fait même plus précisément l'année 1841, il y a vraiment une phase de radicalisation de cette composante un peu contestatrice, disons, dans l'école hegélienne, qui va donner naissance au jeune hegélianisme, qui est vraiment un mouvement beaucoup plus... Alors ça ne signifie pas d'ailleurs forcément qu'ils sont plus jeunes. Jeunes hegéliens, ça ne signifie pas forcément des hegéliens qui sont jeunes. Il y a des jeunes vieux hegéliens et puis des vieux hegéliens qui sont plutôt vieux. Voilà. Mais voilà, donc c'est une phase de radicalisation dans la succession de Hegel, et donc des gens qui vont à partir de Hegel, parfois au-delà de Hegel, contre Hegel, qui commence à critiquer Hegel également. Et alors, bon, il y a un certain nombre de noms qui ont accédé à la postérité parmi ces auteurs-là. Alors, Bakounine en est un. On peut penser évidemment à Max Stirner également, et bien entendu à Karl Marx, ou Engels également, qui fait un passage par là, dans ces années-là. Mais ce n'est pas forcément les noms les plus représentatifs à l'époque. C'est-à-dire que les grandes figures du jeune hegelianisme à l'époque, c'est qui ? C'est Arnold Ruge, par exemple, Bruno Bauer, et puis un qui est un peu plus connu, qui est Ludwig Feuerbach, voilà, c'est ces auteurs-là, et qui, disons, vont se situer à la lisière entre la philosophie, le journalisme, l'activisme politique, et qui vont surtout évoluer très très vite. Hein. C'est une période où les auteurs, notamment ceux qui sont jeunes, évidemment, parce qu'ils sont dans une phase de formation de leur pensée, mais on le voit très bien sur Marx, hein, qui en à 6 mois d'écart ne pense plus du tout la même chose dans ce qu'il écrit, mais c'est le cas également d'autres auteurs, qui vont évoluer très souvent, d'ailleurs, évoluer vers plus de radicalité en matière de critique de la religion, c'est un des chevaux de bataille de ce courant-là, et puis en matière de critique politique, évidemment. Et donc, ils vont partir, disons, de formes de libéralisme oppositionnel. Et puis, ils vont aller parfois jusqu'au communisme et à l'anarchisme. Alors, Bakounine à l'époque, non, mais d'autres, oui.
Il y a quand même aussi une approche autodidactique chez Bakounine, sur laquelle vous revenez aussi dans votre ouvrage, et l'idée qu'il va passer peut-être aussi d'une philosophie qu'il applique au privé à une philosophie justement de plus en plus tournée vers l'extériorité, vers le politique, quitte à abandonner la philosophie carrément pendant 20 ans.
Conditions d'exercice de la philosophie à l'époque en Russie, c'est-à-dire que de fait la Russie est bannie de l'université. Voilà, il n'y a pas de cette partie des premières disciplines en général qu'on enlève de l'université quand il y a des régimes autoritaires. C'est le cas sous Napoléon aussi. On a enlevé l'histoire et la philosophie. Hein. Ça simplifie un peu les choses. Et donc en Russie, les gens se forment un peu sur le tas à la philosophie. Donc ils se mettent à lire des choses. Et alors ils le lisent avec leurs interrogations qui sont les leurs, qui sont parfois d'ailleurs très étonnantes pour nous. C'est-à-dire qu'on voit comment ils lisent Fichte, comment ils lisent Hegel, comment ils lisent Kant. C'est un peu déroutant là, dans ce qu'ils en font. Alors, en particulier, Bakounine, dans les années 1837 en particulier, là, c'est vraiment la période où il rentre, il met la tête dans la philosophie allemande. Donc il est tout jeune, il avait 23 ans à l'époque. Et vraiment, il cherche à penser d'abord à partir de Fichte, et puis ensuite à partir de Hegel, essentiellement les relations interpersonnelles avec son entourage. Alors, avec déjà des perspectives, disons, des soucis d'émancipation, c'est-à-dire qu'il vit dans une Russie qui est une Russie, alors même si son père est quelqu'un d'un peu éclairé, mais quand même qui est très patriarcale. Et en particulier, un de ses premiers combats, d'une certaine manière, c'est l'émancipation de ses sœurs. Hein, parce que, notamment, il y a une de ses sœurs qui doit être mariée il y a un mariage arrangé qui se prépare, quoi, et il va la soutenir énormément contre ce mariage arrangé. Et donc, politiquement, Bakounine n'est pas du tout investi à cette époque-là. En revanche, les premières formules, par exemple, hein, sur la nécessité de libérer les autres autour de soi pour être soi-même libre, des choses qu'on va retrouver très tard dans l'itinéraire de Bakounine à l'époque de son anarchisme, de la maturité, les premières formulations qu'on a interviennent dans ce cadre privé. Et il les pense à partir de Fichte, à partir de Hegel, et pour penser essentiellement des relations interpersonnelles et la contestation, disons, de la domination patriarcale dans la famille Bakounine.
En 1840, donc, Bakounine arrive en Allemagne. Et quel est l'état de la pensée ou de la réflexion philosophique en Allemagne à cette époque-là ? Qu'est-ce qui cristallise la réflexion philosophique quand il arrive en Allemagne ?
Oui, c'est vrai qu'il arrive à une phase qui est intéressante. Alors, politiquement, qui est intéressante parce qu'il y a un changement de souverain à cette époque-là. Hein. Il y a un nouveau Frédéric Guillaume IV qui arrive sur le trône, qui suscite un certain nombre d'espoirs parce qu'on se dit que peut-être il va y avoir une libéralisation du régime. Il s'avère rapidement que ça ne sera pas le cas. Parallèlement, il y a une certaine forme d'ébullition, alors qui est liée notamment aux scissions de l'école hegélienne. C'est-à-dire qu'il arrive à une période où ce qui prédomine, disons, c'est la philosophie de Hegel, qui en particulier pour ses disciples, hein, les synonymes de philosophie. Quand on dit la philosophie, c'est Hegel. Voilà. Alors, cette philosophie hegelienne, elle est relativement divisée. Elle fait l'objet d'un certain nombre d'attaques également, qui commencent à poindre en disant « Ah, mais tout de même, est-ce que Hegel, c'est pas un libéral positionnel lui aussi ?» Et donc, vous avez des membres de la réaction l'école conservatrice qui vont commencer à attaquer Hegel. Et puis, il arrive juste avant, évidemment, ce mouvement de radicalisation. Alors, l'un des grands événements qui va marquer l'histoire de la philosophie à cette époque-là, c'est l'arrivée de Schelling à Berlin. Et Schelling est appelé à Berlin par le roi Frédéric Guillaume IV, précisément pour combattre dans l'université, disons, l'hégémonie du hegelianisme. Et alors, c'est un épisode assez célèbre et qui est assez, assez marquant, parce que donc, quand Schelling arrive à Berlin, donc à l'automne 1841, on trouve dans la salle vraiment la fine fleur, enfin tout le gratin de la philosophie de l'époque. Donc il y a tous les profs de l'université de Berlin, et puis il y a aussi des étrangers assez illustres, donc qui sont voués à le devenir. On trouve dedans Bakounine qui est là, il y a Kierkegaard qui est là également, il y a Friedrich Engels, et puis tous les jeunes hegeliens sont là, et ils sont là pour... dans l'optique de... parce que Schelling a promis qu'il allait en quelque sorte réfuter Hegel, et donc il y a le côté on va amener la bagarre et défendre le maître, puisque Hegel est mort depuis 10 ans, mais on va défendre le maître contre son ancien ami qui est devenu son adversaire philosophique. Donc c'est cette ambiance-là, et ça fait partie des événements qui marquent d'ailleurs la naissance de l'école jeune hegelienne proprement dite. Il y a aussi un contexte de répression, des journaux qui sont interdits, les annales de Halle d'Arnold Rougeux qui vont être remplacées par les annales allemandes, dans lesquelles précisément Bakounine va publier son article jeune hegelien qui s'intitule « La réaction en Allemagne ». Et puis vous avez également dans cette période-là la révocation de Bruno Bauer, qui était... une des figures de proue, qui va devenir une des figures de proue du jeune hegelianisme, à qui on interdit en quelque sorte la carrière universitaire. Et ça, c'est important aussi, parce que toute une frange de l'école jeune hegelienne se rend compte qu'en gros, les portes de l'université vont se refermer, quoi, et qu'elle ne pourra pas accéder à une carrière universitaire. Et donc, d'où aussi le choix de se lancer dans l'activisme politique, dans des formes de journalisme philosophique, etc.
Et oui, et le parcours de Bakounine montre cette prise de position entre une opposition qui est voix française, voix allemande. Jean-Christophe Angot, est-ce bien ce que vous soulignez dans votre ouvrage ?
Alors ça, ouais. Alors c'est cette chose-là, d'ailleurs, enfin cette opposition-là, alors, elle est très forte à l'époque en Allemagne. Il y a une conscience, alors qui est de plus en plus aiguë, hein, dans le public philosophique allemand, et notamment dans son aile progressiste, on va dire, de ce que l'Allemagne, en quelque sorte, est très en avance intellectuellement, hein, que c'est le pays même de la libération ou de l'émancipation de l'esprit, parce que ça a été le pays de la réforme, etc. Mais qu'en revanche, sur un plan politique et social, elle a raté l'étape de la modernisation, en particulier parce qu'elle s'est retrouvée parmi les adversaires de la Révolution française. Et donc il y a l'idée suivant laquelle l'avance politique, l'avance intellectuelle et philosophique de l'Allemagne, hein, les grands philosophes sont des philosophes allemands, se payent d'un retard en matière politique par rapport à la modernité sociale éventuellement qui est portée par l'Angleterre, et surtout par rapport à la modernité politique et morale qui serait portée par la France. Alors, s'agissant de Bakounine, cette alternative-là, elle a en plus une signification spécifique à la Russie, parce que la Russie, à l'époque, se demande en gros, intellectuellement, qui doit être son guide. C'est un peu ça, en particulier chez les gens qui sont, disons, des occidentalistes, qui pensent que la Russie doit s'arrimer à l'Europe. C'est toujours la question de la Russie, c'est est-ce qu'on est en Asie ou est-ce qu'on est en Europe. Et donc parmi ceux qui pensent que la Russie doit s'arrimer à l'Europe, eh bien, il y a ceux qui vont dire, bah oui, mais en fait, ce qui est représentatif de l'Europe, c'est la pensée française, c'est les Lumières, etc. Et puis Bakounine arrive à une époque où il y a plutôt une réaction par rapport à ce courant-là, et donc il va plutôt lui prendre parti pour la philosophie allemande. Et ce qui d'ailleurs politiquement va plutôt en général dans un sens un peu conservateur. Et alors, les choses vont se retourner complètement quand il va arriver en Allemagne, où il va en fait renouer avec un camp progressiste, mais à travers la philosophie allemande, et à travers la contestation interne à la philosophie allemande.
Donc en arrivant en Allemagne, Bakounine va approfondir sa connaissance de la pensée hegelienne. Qu'est-ce que Bakounine emprunte à Hegel lorsqu'il commence à construire sa réflexion en tant que jeune hegelien ? Par exemple, ce passage crucial chez Bakounine de la théorie à la pratique, est-ce quelque chose qu'il reprend à la pensée hegelienne ?
Alors, pour une part, oui, et pour une parce qu'on a, on a des choses comme ça, par exemple, dans, chez, chez Hegel, mais alors que ne cite pas forcément d'ailleurs Bakounine, sur le passage de la théorie à la pratique, toute la question de l'esprit pratique qu'on trouve dans la philosophie de l'esprit. Mais il va plutôt faire un usage. Moi, je dirais quasiment qu'il a piraté Hegel, en fait. Voilà. C'est une dimension de. Il a hacké Hegel, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait du bricolage à partir de Hegel. C'est-à-dire qu'il, quand on regarde, c'est très étonnant la manière dont fonctionne son article donc de l'automne 42, La réaction en Allemagne, parce que, au fond, il choisit de dire qu'est-ce qui est central chez Hegel. Alors, on pourrait se dire, la philosophie de l'esprit, c'est la philosophie de l'histoire, etc. Et en fait, il va dire non, en fait, c'est un petit chapitre de la science de la logique, hein, qui est la théorie de l'opposition. Et là, il dit, bah, en fait, là, ça, c'est le truc central chez Hegel, parce qu'en fait, on a une période où il y a plein d'oppositions qui vont exploser. Et donc, si on veut comprendre l'époque, il faut regarder ce chapitre de Hegel. Ce qui est quand même loin d'être évident que ce soit tout à fait central dans la pensée de Hegel. Donc, il y a à la fois une connaissance très technique, très poussée de ce chapitre de la philosophie de Hegel, hein, dont il retrace complètement tous les moments en essayant d'en trouver la transcription politique. Hein, le passage de l'opposition, de la simple opposition au stade de la contradiction, qui est le stade vraiment de l'affrontement ouvert entre deux camps qui seraient d'un côté la réaction, de l'autre la démocratie, etc. Et puis en même temps évidemment un usage qui est évidemment un usage un peu détourné, quoi. Il y a une dimension de détournement de Hegel. Donc il en retient un chapitre qui est pas forcément la chose la plus évidente. Voilà. Plus largement, je pense qu'une des choses quand même qu'il retient, c'est évidemment le fait que dans la théorie puisse être pensé le fait qu'un régime politique, mais comme tout le reste, comme tout ce qui est inscrit dans l'histoire, est voué à, en raison des contradictions internes dont il est porteur, à l'autodestruction. Et donc c'est ça qu'il et donc évidemment d'où l'importance qu'il va accorder à la composante négative du processus dialectique. Ça c'est bon, et c'est une chose d'ailleurs pour laquelle, à mon avis, il a très bien lu Hegel sur ce plan-là, hein. La prépondérance du négatif dans la dialectique hegelienne, c'est un point qui est un vrai point d'interprétation intéressant de Hegel. Et ça, c'est, disons, si on veut, ce qu'il va vraiment en retenir. Alors simplement, pour lui, malgré tout, Hegel, c'est celui qui a vu cette prépondérance du négatif, mais encore à l'intérieur de la théorie. Donc le Hegel égale philosophie égale théorie, et en gros, une fois qu'avec Hegel on a compris que l'opposition était la catégorie dominante de l'époque, là on est allé aussi loin que la philosophie pouvait nous emmener sur la voie de la pratique. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, il faut agir, il faut s'inscrire dans ces oppositions pratiques, choisir son camp de cette manière et entamer des combats qui sont des combats réels. Alors, ce que Bakounine proclame assez tôt, ça, parce qu'il va mettre un petit peu plus de temps à faire vraiment, parce qu'il va se retrouver un peu sans cause.
Son article tournant, c'est La réaction en Allemagne en 1842, c'est bien ça?
Et joint un autre article qu'il publie en Suisse en 1843, qui est également dans le volume Bakounine jeune hegelien, qui est un article sur le communisme. Donc c'est vraiment ces deux. C'est le texte-là où d'ailleurs il caractérise la philosophie comme étant une activité essentiellement théorique et qui doit désormais se convertir en pratique.
Qui sont les adversaires de Bakounine à l'époque de l'apparition de ce texte? Vous en proposer quelques exemples, en tout cas, dans votre ouvrage.
Il y a des adversaires, il y a des ennemis. En fait, c'est ça qui est un peu particulier. C'est-à-dire que tout le début, par exemple, de son article, hein, consiste à distinguer ça. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté ceux qu'il va appeler les réactionnaires fanatiques, c'est-à-dire vraiment les gens qui sont occupés uniquement par la conservation de l'ordre établi et qui luttent d'une manière effrénée contre toute possibilité de réforme, notamment de l'Allemagne de l'époque. Et puis il y a, donc ça ce serait plutôt les ennemis, mais en général Bakounine va dire oui, mais en fait eux, en un sens on est d'accord, on s'est reconnus avec eux, hein, voilà, on est bien d'accord qu'on est chacun d'un côté de la barricade, si on veut. Et puis il y a ceux avec lesquels il va véritablement ferrailler dans cet article, qui sont ceux qu'il appelle les médiateurs, hein, ou les sortes de conciliateurs, des gens qui disent bon, on va essayer quand même de ménager un peu la chèvre et le chou, c'est une sorte de robinet d'eau tiède, et qui disent bon, écoutez, oui, il y a du bon chez les uns, il y a du bon chez les autres. Alors qu'on peut identifier d'ailleurs probablement, alors peut-être à une partie de l'école hegelienne, mais plutôt des vieux hegeliens, et sans doute également d'un point de vue politique, disons au libéralisme de l'époque, un libéralisme modéré, disons de l'époque. Voilà, on va essayer de trouver une voie médiane entre la pure conservation de l'ancien régime et puis la Révolution française. Voilà. Et donc ça, donc ses vrais adversaires, c'est ceux-là, c'est ceux vraiment avec lesquels il dialogue. Alors, il le fait d'ailleurs, on l'a pas précisé, mais à l'époque l'article La réaction en Allemagne, c'est un article qu'il écrit en prenant un pseudonyme français. Il le publie sous le pseudonyme de Jules Elizard. Alors, pour alors, d'une part, ça a évidemment une signification de dire, voilà, je suis un Français, je m'exprime dans un journal allemand. C'est une manière de choisir le corps de la Révolution, hein, qui est censé être celui de la France. Et puis, bien entendu, c'est une manière aussi de ne pas être reconnu, parce qu'il est de ne pas attirer sur lui l'attention de l'ambassade de Russie. Ouais. Ce qui va d'ailleurs pas bien marcher. Rapidement être sommé de rentrer en Russie, ce qu'il ne va pas faire.
On a le sentiment aussi que la question de l'adversité est centrale dans la pensée de Bakounine, puisqu'il refuse d'une certaine manière toute médiation ou toute conciliation externe. Comment peut-on le lire, ça, philosophiquement?
Alors, ouais. C'est une des choses, je trouve, sur lesquelles cet article-là, enfin, il y a une leçon au long cours, si on veut, au-delà de la dimension de l'article de circonstance liée à un contexte politique, c'est que je pense que c'est une des pensées possibles de la radicalité, enfin c'est une des composantes possibles de ce qu'on peut appeler radicalité en politique, qui est alors non pas le refus de toute médiation, hein, vous avez bien raison, mais toute médiation externe, c'est-à-dire il y a évidemment une médiation qui doit se faire, c'est-à-dire quand on part des principes et d'un idéal, si l'on veut, et qu'on se confronte à la réalité, bien entendu, il y a une médiation, et cette médiation, simplement, ça ne peut pas être une espèce d'accommodation externe où on concilie des principes opposés les uns aux autres, mais la véritable médiation, eh bien, c'est le principe qui cherche à aller à entrer dans la réalité et qui se confronte éventuellement à ses adversaires. Et donc la seule médiation, de cette manière que reconnaît Bakounine, c'est la lutte. Voilà, c'est la lutte, c'est l'affrontement. Mais c'est bien une médiation. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de médiation, on en resterait à la pureté des principes. Mais il y a bien une médiation, mais qui est une médiation qui doit passer par la lutte et qui doit, disons, opter pour la conséquence et la cohérence par rapport au principe de départ et aller jusqu'au bout de ces conséquences, qui est une des manières dont on envisage habituellement la notion de radicalité en politique.
Jean-Christophe Angot, pourriez-vous expliciter cette opposition que vous mentionnez entre partie du négatif et partie du positif ?
Ouais. Ça fait partie des curiosités un peu de cet article de Bakounine, c'est-à-dire qu'à la fois il semble prendre position, mais très véhémente, dans des oppositions politico-historiques, et les catégories qu'il emploie pour penser ces oppositions sont, semble-t-il, empruntées typiquement à la logique de Hegel, c'est-à-dire que c'est une manière de politiser des catégories logiques, hein, des catégories de positif et des catégories de négatif. Alors, en général, le parti du positif, en général, ce qu'il va entendre par là, alors, le positif, il va parfois d'ailleurs les qualifier de positivistes, ce qui peut être un peu source de confusion, parce que le positivisme à l'époque en France, enfin, quelques années plus tard en France, va être vraiment l'école d'Auguste Comte, mais ça n'a rien à voir avec ça, c'est vraiment ceux qui défendent le positif, c'est-à-dire ce qui existe positivement. Voilà. Et donc, c'est-à-dire qu'ils défendent, alors en matière de droit, par exemple, au sens où en droit, on parle de droit positif, par exemple, hein, c'est le droit existant, par opposition, par distinction avec le droit naturel, qui est un droit rationnel. Donc, le positif, le parti du positif, c'est le parti qui défend l'existant, qui défend le statu quo. Hein, voilà, ça. Le parti du négatif va être le parti, en revanche, qui est orienté vers la destruction de ce qui est, hein, la destruction de l'ordre social existant comme étant un ordre inique qui ne correspond plus aux exigences présentes de l'esprit dans l'histoire, etc. Et alors, ce qui est simplement ce que Bakounine essaie de montrer, c'est deux choses. C'est d'une part que le parti du positif ne peut pas se maintenir dans la pure positivité. Hein, c'est l'exploitation qu'il fait, si vous voulez, de la logique de Hegel, en disant en fait, ce parti... Il a en lui-même une dimension négative parce qu'en fait, il cherche à réprimer le négatif. Et donc, il est en quelque sorte le négatif du négatif. Et puis, le parti négatif lui-même, eh bien, il est porteur d'une nouvelle positivité qui est l'ordre social à venir. Et ce faisant, eh bien, ce parti négatif, il n'est qu'en apparence négatif, il est porteur d'une nouvelle positivité. Alors, Bakounine est probablement... C'est une hypothèse que j'ai faite dans le livre, tributaire aussi d'une vision de l'histoire qui alterne des moments qu'on pourrait dire organiques et des moments critiques. Hein. Ça, je le dis dans des termes qui sont ceux du saint-simonisme en France à l'époque, mais des périodes, en tout cas, d'affirmation d'un principe social qui est voué à durer très longtemps, où c'est vraiment un principe d'ordre, alors qu'on voit apparaître typiquement le modèle de ça en général, c'est le Moyen-Âge. Et puis, les périodes critiques, c'est les périodes où cet ordre social hérité commence à se déliter de l'intérieur. Alors Bakounine le date d'ailleurs de la réforme, voilà, ça a commencé d'abord sur un plan spirituel, hein, l'émancipation avec la réforme, et puis ensuite eh bien, ça s'est approfondi dans l'ordre politique et puis même dans l'ordre social avec la première évocation d'ailleurs du socialisme à la fin de l'article de 1842. Et donc le négatif, c'est aussi ça. Le négatif, c'est le procès de dissolution d'un ordre hérité et qui est devenu, en fait, au fond, insupportable, d'ailleurs, pour les personnes qui vivent dedans et qui va commencer à s'effondrer et à se fissurer. Et finalement, quand même, pour donner naissance toujours à un ordre renouveler.
Vous écrivez d'ailleurs dans la réaction en Allemagne, il s'agit d'un texte, d'un article qui pourrait être considéré comme apocalyptique.
Oui, alors il y a tout un jeu à cette époque-là, chez les jeunes hegeliens en particulier, sur les références à l'apocalypse. Un des modèles du genre, c'est Bruno Bauer, hein, qui écrit alors un pamphlet anonyme à l'époque qui s'intitule il fait semblant de s'attaquer à Hegel comme s'il était un auteur réactionnaire, comme si lui, l'auteur de ce pamphlet, était un auteur réactionnaire qui blâme Hegel pour les conséquences progressistes qu'on pourrait tirer de sa pensée. Et le pamphlet s'intitule hein, contre la trompette du jugement dernier, contre Hegel, l'athée et l'antéchrist. Et donc il y a tout un jeu sur ce type de référence qu'on trouve effectivement dans le texte de Bakouni, où il y a carrément des citations de l'évangile de Jean qui dit voilà, alors, notamment il y a le passage, le fameux passage où dans l'évangile de Jean où il est dit tu n'es ni chaud, que n'es-tu chaud ou froid, mais puisque tu n'es ni chaud ni froid mais tiède, je vais te vomir de ma bouche, etc. Et évidemment ça va très bien parce que il y a les froids et les chauds, quoi, et les tièdes c'est les médiateurs au milieu, et donc c'est ce qu'on va vomir. Alors il y a l'idée, alors il y a un jeu avec des références théologiques à cette époque-là. Il faut voir que la pensée philosophique à l'époque est empreinte de références théologiques. C'est un des jeux des jeunes hegeliens, hein, ça, le jeu avec les références théologiques, souvent subverti, c'est un grand jeu de l'époque. Et puis c'est une manière aussi pour lui de concevoir l'événement révolutionnaire comme une forme d'apocalypse, quoi, une forme de destruction de ce qui est, et puis de moment de jugement dernier, quoi. Voilà, à un moment il faudra savoir de quel côté on est, quoi. Voilà. Et donc on jugera en fonction des œuvres qui a été bon et qui a été mauvais, quoi.
On a le sentiment quand même qu'il y a une forme de religiosité dans l'idée de conversion quand même, politique en tout cas, chez Bakounine. Et pourtant, vous remettez en perspective la thèse d'Henri Avron, selon laquelle justement il y aurait une religiosité à l'œuvre dans ce parcours politique et dans sa réflexion. Pourquoi finalement le...
Alors, il y a une chose qui est vraie, c'est que Bakounine, la place qu'occupe à l'époque la thématique anti-religieuse, est plutôt mineur chez Bakounine par rapport à d'autres jeunes hegeliens chez qui vraiment c'est le cheval de bataille, des gens comme Bruno Bauer, c'est des gens qui pensent uniquement c'est vraiment détruire l'état chrétien, détruire la conscience de soi théologique, c'est vraiment l'ennemi, quoi, voilà. Chez Bakounine beaucoup moins, c'est-à-dire que les attaques contre la religion sont finalement relativement discrètes, contrairement à ce que ce sera d'ailleurs plus tard dans son itinéraire, hein, où ses grands ouvrages, où il se réclamera une forme d'anti-théologisme, et donc d'athéisme érigé en doctrine philosophique. C'est moins le cas à cette époque-là. Et de fait, il y a aussi chez lui une valorisation d'une forme de religiosité, mais déconnectée de la question du divin. C'est-à-dire que ce qui intéresse Bakounine, c'est l'idée suivant laquelle la religion, elle fournit un modèle de rapport entre les convictions et le comportement, et dans le sens, elle fournit un modèle d'incorporation des convictions, on pourrait dire, voilà, c'est ça. Et en fait, il s'agit en somme d'être aussi pénétré de ces convictions démocratiques, progressistes, socialistes, éventuellement anti-autoritaires, etc., que le sont les chrétiens lorsqu'ils sont pénétrés de religiosité chrétienne. Alors, effectivement, vous avez mentionné il y a un des rares auteurs qui s'était intéressé à Bakounine en philosophie avant, qui est Henri Arvon, qui l'a beaucoup rattaché à une forme d'inquiétude existentielle. Alors c'est comme ça qu'il a lu Max Stirner aussi, hein, comme précurseur de l'existentialisme. Bon, moi j'ai trouvé que c'était une lecture qui était assez peu convaincante, qui essayait un peu de tirer les textes, enfin de forcer, je trouvais, les textes dans une direction. Bon, dès qu'il voyait de l'enthousiasme chez lui, il dit « Ah oui, ça c'est de la religion, etc. » Bon, c'est un peu forcé. Ouais. Mais c'était un des seuls auteurs qui s'était vraiment intéressé, Henri Arvon, au texte de cette période-là de Bakounine. C'est pour ça que j'ai dû le discuter. Ouais.
Il nous reste plus beaucoup de temps, alors je pense qu'on va peut-être parler de l'histoire et puis aussi du contexte, en tout cas dans lequel vous avez écrit cet ouvrage. Sur l'histoire, peut-être simplement rappeler quel est le mouvement de l'histoire selon Michel Bakounine et par rapport à Hegel, comment il se situe.
Alors au tout début de l'article de 1842, Bakounine dit liberté, réalisation de la liberté, ces mots figurent aujourd'hui à l'ordre du jour de l'histoire. Donc effectivement, il y a une reprise de l'idée hegélienne suivant laquelle l'histoire, c'est le lieu dans lequel doit s'effectuer, hein, se réaliser effectivement la liberté humaine. Là où Bakounine va peut-être se dissocier davantage de Hegel, et de plus en plus d'ailleurs probablement par la suite, et ce sera d'ailleurs l'une des sources du différend avec Marx, c'est l'idée suivant laquelle l'histoire serait un cours nécessaire et auquel il s'agirait d'acquiescer. C'est-à-dire que Bakounine va dire, bah non, en fait, il y a des épisodes de l'histoire qui manifestement vont contre la réalisation de la liberté, bien évidemment, dans ces cas-là, toutes nos sympathies vont aux perdants de l'histoire. Alors ça, c'est quelque chose qui va notamment le distinguer très fortement de Marx, hein, pour lequel, de telle manière, il y a une réalisation, y compris, voyez, je sais pas, lorsque les communautés primitives se retrouvent insérées dans le mouvement du capitalisme mondial, on dit oui, mais en fait, au fond, c'est un mouvement de réalisation qui va finalement conduire vers le socialisme. Ça, Bakounine ne va absolument pas tenir cette thèse. Alors, c'est ce qui fait d'ailleurs aussi, ça, à mon sens, sa très grande modernité ou sa très grande actualité, je ne sais pas comment dire ça, c'est aussi d'avoir très tôt contesté cette forme de nécessitarisme historique. Alors, moins peut-être dans l'article de 1842 où il dit voilà, l'histoire c'est un développement à la fois nécessaire et libre, etc. Donc il est encore très hegélien quand même malgré tout dans sa considération de l'histoire à l'époque, il le sera moins par la suite.
Est-ce que Bakounine reste jeune hegélien, hegélien jusqu'à la fin de sa vie?
Alors ça certainement pas. Cela dit, la référence à Hegel, il ne l'a jamais abandonné. Alors il y a deux indices un peu de ça. Le premier, c'est que vers le milieu des années 1860, dans une lettre à un autre socialiste russe qui s'appelle Alexander Herzen, il se réfère à cet article de 1842 et il dit « Ah, regarde, je suis vraiment resté le même » et il cite la fameuse citation de la conclusion de l'article, hein, la passion de la destruction est en même temps une passion créatrice, et il dit « Voilà, il cite cet article-là, donc il s'y réfère. » Donc c'est une manière d'assurer une sorte de continuité. Après, sur la dimension hegélienne, il y a un certain nombre de thématiques hegéliennes qui vont rester chez lui. Par exemple, on trouve dans des manuscrits des années 1870 des mentions, par exemple, du rapport entre l'intérieur et l'extérieur, où il va se référer à Hegel en disant tout ce qui est à l'intérieur doit finir forcément par s'exprimer à l'extérieur. Ou des passages où il dit voilà, mais en fait, lorsqu'une entité est porteuse d'une contradiction, forcément, à un moment, cette contradiction va être portée au grand jour. Et donc, on le voit, par exemple, dans des discussions qu'il a avec des jeunes camarades politiques, disant, attendez, moi j'ai étudié Hegel, alors il y a toujours cette dimension-là qui est énervante chez les Hegeliens, moi j'ai étudié Hegel, et donc si vous aviez un peu étudié la logique, vous sauriez que là, en fait, ce qui va se passer, là aujourd'hui on en est là, mais demain on en sera là, notamment lorsqu'il discute des contradictions du patriotisme, et en fait, dans le patriotisme, il y a la source d'une nouvelle oppression. Donc là, vous luttez pour l'émancipation de l'Italie, par exemple, ils discutent beaucoup de ça avec les Italiens, mais votre passion nationale, forcément, à un moment donné, vous allez vous retrouver en porte-à-faux, parce que forcément, le développement inhérent du patriotisme conduit à un nouvel État et à une nouvelle forme d'oppression. Il dit, et ça, c'est inscrit dans la logique, et la logique prime dans l'histoire, et ça, il y a un accent hegélien dans ces... donc il y aura toujours quelque chose comme ça, mais qui est lié à sa formation, de toute façon.
Peut-être une dernière question avant de passer justement aux questions du public. En 2007, vous écriviez que les contributions à la gauche hegélienne de Bakounine avaient été peu étudiées. Est-ce que ça a changé alors en 16 ans? Est-ce qu'il y a eu des changements dans le domaine de la recherche?
Alors oui. Alors déjà, je pense qu'aujourd'hui, je n'écrirais plus que c'est des contributions à la gauche hegélienne, parce qu'à l'époque, je n'avais pas les idées très claires sur comment il fallait distinguer gauche hegélienne et jeune hegélianisme. Et là, c'est depuis, en fait, voilà, ça fait partie des choses. Enfin, on fait de la recherche et notre connaissance du contexte évolue, et c'est tant mieux. Donc il y a plein de choses à laquelle, dans ce livre, il y a quelques petites choses à laquelle je suis plus d'accord, et il y a des choses que je ne dirais plus de la même manière, ou que je dirais surtout beaucoup plein d'autres choses autour, parce que ma connaissance du contexte, alors c'est le moment de les citer. Moi, j'ai travaillé beaucoup, notamment ici à l'ENS de Lyon, avec un certain nombre de collègues, Pauline Clochet, Emmanuel Renaud, Jean-Michel Bué, David Wittmann, avec qui à une époque on s'est tous et toutes retrouvés là à l'ENS, et on a fait un gros travail sur le mouvement jeune hegélien. Et moi, j'ai une connaissance aujourd'hui du mouvement jeune hegélien que je n'avais pas du tout à l'époque où j'ai écrit ce livre. Alors, la partie, ce qui concerne Bakounine, une bonne partie des développements, c'est aussi les miens. C'est-à-dire que j'ai aussi réécrit, corrigé des choses qui se trouvaient dans ce livre, ou développé, ou précisé un certain nombre de choses. Je pense par exemple que je connais mieux, par exemple, l'activité d'un auteur comme Arnold Ruge, dans la revue duquel Bakounine a publié ses textes. Et en fait, en lisant Arnold Ruge, maintenant, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont des espèces d'expressions extrêmes de la pensée de Ruge, en fait, dans l'article de Bakounine. Ça, c'est des choses dont j'avais pas forcément conscience à cette époque-là. Donc oui, ça a évolué. Et puis, je pense notamment aussi, il y a eu des textes qui sont parus. Hein. Il y a mon camarade Vivien Garcia, par exemple, qui a fait sa thèse, puis qui est devenu un livre cher. Là, sur différents itinéraires jeunes hegeliens. Alors il a pris Bakounine, Stirner, Engels et Marx, et dans lequel lui aussi il a un peu discuté les choses d'ailleurs qu'il y avait dans mon livre. Donc oui, ça a progressé depuis, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle, parce que bon, il y a des fois, parfois on se dit on balance quelque chose, puis bon, il se passe, on sait pas trop où ça atterrit. Donc là, si, il y a eu un domaine de recherche assez vivant depuis. Et puis donc tout le courant des études sur le jeune hegelianisme, c'est quelque chose qui est resté assez dynamique. Enfin, je pense notamment aussi à une anthologie de Frank Fischbach qui a été publiée l'an dernier chez Gallimard, et qui témoigne de ça.
Bah, merci beaucoup Jean-Christophe Angot.
C'est moi, ça fait plaisir de discuter.
On va passer, je pense, voilà, la parole au public grâce au micro. Je sais pas lequel. Hein. Voilà. S'il y a des questions donc dans le public.
Moi j'avais deux questions déjà sur donc il me semble que son itinéraire est proche de celui de Marx. Il part du jeune hegelianisme et puis il valorise la pratique sur la théorie. Mais est-ce qu'on trouve chez l'un comme chez l'autre des oppositions l'un à l'autre? Il me semble que Bakounine est absent, par exemple, d'un texte comme l'idéologie allemande. Et l'autre question, c'était sur donc un Bakounine plus tardif. Donc lui se prévaut de sa connaissance de Hegel dans des débats avec d'autres socialistes ou d'autres anarchistes. Mais est-ce que c'est quelque chose qui a pu être un objet de débat, ou par exemple lui être reproché par d'autres dans un contexte où la référence à Hegel n'était plus aussi, aussi évidente?
Alors, Bakounine et Marx, à l'époque où des textes que j'étudie, ils se connaissent pas. Alors, il faut dire aussi que Marx, c'est un petit jeune hegelien. C'est-à-dire qu'on est venu à penser, par exemple, que le mouvement jeune hegelien, c'était simplement ce mouvement qui faisait la transition entre Hegel et Marx. Mais à l'époque, c'est pas du tout ça. Et Marx n'a absolument pas la stature de grand auteur qu'il acquérera très justement, d'ailleurs, par la suite. C'est un auteur, c'est un tout jeune déjà. En plus, Marx est de 1818, hein, donc il a 24-25 ans, quoi, à l'époque des textes que j'étudie. Alors, de fait, Bakounine et Marx ne se sont vraiment rencontrés qu'à Paris en 1844. C'est à cette époque-là qu'ils se côtoient. Et puis, Bakounine non plus n'est pas un des grands auteurs du jeune hegelianisme. Et donc, alors, on a parfois été tenté d'aller trouver dans les références de Marx à un parti pratique. Peut-être que ça renvoyait à Bakounine, mais c'est vraiment très très incertain. Donc dans des textes de 1843, donc les textes de critique de la philosophie du droit de Hegel. C'est pas du tout évident. Alors, c'est pas étonnant en fait qu'ils s'en prennent pas à Bakounine, parce que Bakounine à l'époque, alors déjà c'est plutôt un de leurs camarades, mais bon, taper sur les camarades, ça n'a jamais trop retenu Marx. Mais surtout c'est pas une des figures en vue. Mouvement jeune hegelien. Donc les figures en vue, c'est Bauer, c'est Stirner, etc. Donc c'est pas très étonnant. Ensuite, alors pour ce qui est de par la suite, alors je parlais tout à l'heure éventuellement de la manière dont pouvait intervenir Hegel dans la discussion. C'est Bakounine est loin d'être celui chez qui la référence à Hegel est le plus convoquée. C'est-à-dire qu'on le voit de manière très discrète dans les manuscrits qui ne sont pas forcément publiés à l'époque. C'est beaucoup plus le cas chez Marx, typiquement, hein, où Marx va utiliser des chapitres de la logique de Hegel dans le premier chapitre du Capital, va évoquer un retournement de la dialectique hegelienne dans la postface du Capital. Il y a des références tout à fait explicites qu'il y a beaucoup moins chez Bakounine. Donc la référence, elle est assez peu mentionnée. En revanche, alors, ce qui est intéressant, c'est que Marx avait d'abord songé à Bakounine pour traduire le livre 1 du Capital. Et notamment, il y avait songé parce que précisément, il se disait, c'est un ancien hegelien. Et donc, les références à Hegel, notamment dans le premier chapitre, tout ce qui tourne autour des déterminations de réflexion, ce chapitre-là, bah, qui est précisément un des chapitres qu'utilise aussi Bakounine dans son article de 1842, eh bien, il s'était dit que ça pourrait que Bakounine pourrait être le bon auteur pour traduire peut-être ces catégories, qui sont parfois des catégories hegeliennes, dans la langue russe. Alors, c'est toute une histoire assez compliquée, la manière dont Bakounine a commencé à travailler là-dessus, puis a eu beaucoup mieux à faire, des conspirations en tout genre, et finalement ça s'est pas fait, quoi. Bakounine n'a pas traduit le Capital en russe.
Y a-t-il d'autres questions ?
Merci. Tu viens de parler de traduction, je me demandais dans quelle langue Bakounine pensait, écrivait et échangeait oralement. Est-ce que ça a un impact sur la façon dont il réfléchit, sur le vocabulaire qu'il emploie ou les concepts qu'il utilise ?
J'avais une dernière question, sinon peut-être. D'accord. Sur les... Enfin, vous revenez sur les 20 années suivantes, justement, enfin, un peu cette traversée, j'allais dire, du désert, ou je ne sais pas comment il faut la lire. Quel regard est-ce qu'on peut porter, justement, sur la période où Bakounine donc, quitte la philosophie ? Est-ce qu'il réalise précisément son... Enfin, j'allais dire sa thèse, à savoir il faut se tourner du côté du pratique, se détourner du théorique, ou est-ce que c'est un renoncement à la philosophie, puisque finalement la philosophie n'est pas à même de réaliser son projet
Ou est-ce une nouvelle forme de théorie à laquelle il nous invite ?
Ah, il y a un peu les deux. C'est-à-dire que dans un premier temps, effectivement, Bakounine arrête d'écrire. C'est-à-dire après 1943, on a plus trop de traces. Alors, la difficulté, c'est qu'en plus, la correspondance de Bakounine, on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue, parce qu'il a beaucoup échangé avec des Polonais, et les Polonais, c'était des bons conspirateurs, donc ils détruisaient tout. Voilà. Donc on ne sait pas trop ce que c'est devenu. Mais effectivement, les quelques années qui suivent, notamment lorsque Bakounine est à Paris, donc entre 1944 et 1947, c'est des années où, en fait, c'est une sorte de rebelle sans cause, quoi. C'est-à-dire qu'il est, alors certes, il est le premier démocrate russe, voilà, le premier d'ailleurs à avoir... publiquement pris position contre l'autocratie dans son principe, voilà. C'est quand même le premier dissident russe, Bakounine. Précisément, il est tout seul, quoi. Il est très isolé. Alors, parce que les Allemands, bah, leur combat, c'est pas vraiment le sien. Il fréquente un peu les Polonais, mais les Polonais, quand même, parfois, ils se méfient de lui parce que c'est quand même un Russe. Donc voilà, et les bonne partie de la Pologne est sous domination russe. Donc il a des prises de position vers l'expulsion de France lors du 17e anniversaire de la révolution polonaise. Il prend parti comme ça, il dit ouais, la cause de la démocratie polonaise et de la démocratie russe sont liées, il y aura la révolution partout, etc. Voilà. Et bon, ça se passe pas très bien pour lui, mais effectivement, dans un premier temps, il est sans cause. Et d'ailleurs, la cause qui va le faire à nouveau connaître dans les années, donc au moment de la révolution de 48, c'est plutôt la cause démocrate slave. Et donc il va rêver à ce moment-là d'une révolution qui, à partir de la question slave, contaminerait la Russie, quoi. Voilà. Et ça va pas très bien se passer, puisqu'il va, à l'occasion de la révolution, enfin, d'une insurrection en Allemagne, il va être arrêté, et puis en 1849, et il sera de retour en Europe, en liberté, seulement 12 ans plus tard, puisqu'il va être dans des prisons saxonnes, autrichiennes, puis en Russie, puis en Sibérie, et donc il va s'évader, toute autre histoire. Ouais. Ouais. Pour votre question sur la philosophie et la théorie, on a un retour dans au milieu des années 1860 de la philosophie sous la plume de Bakounine, et un retour des préoccupations philosophiques, où cette fois, alors, il s'agit moins de discuter Hegel, même s'il est parfois en arrière-fond, que des auteurs comme Marx, mais aussi comme Auguste Comte, et où vraiment Bakounine, cette fois, alors, se dit qu'il y a une dimension d'émancipation dans la théorie à mener, c'est-à-dire qu'il s'agit de mener le combat contre les formes d'oppression qui sont en philosophie, donc notamment tout ce qui est autorité, légitimation théologique de l'autorité. Donc une bonne partie du retour de la philosophie chez Bakounine se dit à l'époque sous la forme de l'antithéologisme. Donc, et donc comme en tant que la théologie est une forme de justification spéculative de l'autorité. Voilà. C'est dans ce sens-là qu'on va avoir un retour de la philosophie 20 ans plus tard, en fait. Ouais.
Bien, merci beaucoup pour cet entretien, pour cet échange, Jean-Christophe Ongo. Merci à vous, public, d'être venu. On rappelle que vous pouvez retrouver cet ouvrage, Bakounine, John Hegelien, que Léopold tient dans ses mains.
Voilà. C'est paru à l'ENS, ENS Édition, hein, dans la collection La Croisée des Chemins en 2007. Et on vous retrouve aussi donc le mardi 14 novembre pour une rencontre, cette fois-ci avec Julien Nègre, à propos de son ouvrage L'Arpenteur Vagabond, carte et cartographie dans l'œuvre de Henri David Thoreau. Voilà, c'est aussi un ouvrage de la collection ENS Édition.
La prochaine rencontre Pépite sera consacrée à l'ouvrage de Nathalie Zimpfer, Mary Wollstonecraft, aux origines du féminisme politique et social en Angleterre. La séance sera co-animée par Alexia Chicot et Clara Le Goff et elle aura lieu le jeudi 8 février prochain entre 12h45 et 13h30 à la librairie ENS Éditions, campus Descartes. À bientôt.